Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Le message aux Hébreux, chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier sur toute chose. Par lui, il a aussi créé le monde, l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et nous allons reprendre maintenant les premiers versets du chapitre 2. Et nous avons en quelque sorte la prolongation ou l'explication, on peut dire cela comme ça si l'on veut. Alors, chapitre 2, verset 1er, c'est pourquoi, en conséquence de quoi ? Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Alors voilà, nous avons matière à réflexion et certainement de nous instruire et en tous les cas de fortifier notre foi parce qu'il nous est dit des choses à la fois essentielles et tellement belles, me semble-t-il. Dans ce qu'il nous est présenté de Dieu, de Jésus-Christ, à travers les premiers versets que nous avons saisis il y a un instant, c'est tout un récapitulatif, un résumé de l'histoire en quelque sorte. L'histoire non pas seulement des hommes, mais l'histoire de Dieu avec les hommes. Avec ceux qui, de tout temps, depuis les temps immémoriaux, ont parlé de la part de Dieu pour se faire connaître. Non pas les hommes pour se faire connaître, mais ces hommes étaient inspirés par Dieu pour nous faire connaître Dieu. Et nous avons là, en quelque sorte, les deux alliances, c'est-à-dire ce que nous appelons dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que les choses ne sont pas arrivées d'un seul coup comme cela, mais ça a été au fil des siècles, des temps, des générations. Et tout cela a pris finalement une dimension tout à fait merveilleuse, extraordinaire, pour que les hommes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, puissent connaître Dieu. Et vous avez remarqué avec moi, les mots sont très forts. Et l'auteur, vraisemblablement inconnu de l'Épître aux Hébreux, commence de cette manière pour nous faire entendre que nous avons à non seulement écouter et accepter, mais aussi, Seigneur, de ne pas négliger ce que nous avons entendu. Alors, les choses sont très simples, puisque l'introduction se présente de cette manière, après avoir autrefois, jadis, non seulement une fois, mais à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Lorsque nous jetons les regards dans l'Ancien Testament, nous pouvons nous imaginer tout ce que Dieu a pu mettre en œuvre pour se faire connaître, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit à travers la nature, à travers la création qui parle d'elle-même, et puis à travers les phénomènes de cette création, le vent, le tonnerre, le souffle doux et léger, à travers des hommes qui ont parlé, qui ont été inspirés, des hommes qui ont révélé la volonté de Dieu, non pas pour Eh bien, détruire cette humanité qui était sortie des mains géniales du Créateur, mais pour le sauver, parce que tout va dans le sens du salut. Tout va dans le sens de ce que cet homme perdu, cet homme qui se méconnaît lui-même et qui méconnaît son Créateur, puisse finalement arriver à la connaissance de la vérité, pour être sauvé. Alors, vous avez remarqué avec moi, il y a une insistance dans les mots, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Et lorsque nous nous apercevons que ces hommes de foi, ces prophètes de l'ancien temps, que nous retrouvons eh bien, dans la première partie de la Bible, qu'il s'appelle Ésaïe, qu'il s'appelle Ézéchiel, Élie ou Élisée, ou les uns et les autres, même David a été prophète. Eh bien, nous nous apercevons que chacun est venu avec, quelque part, un message qui lui était, qui allait bien avec sa personnalité. Les uns et les autres sont venus avec un caractère particulier, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'autres ont été beaucoup plus sentencieux, ont été beaucoup plus martial, nous pourrions dire. Et puis d'autres ont été véritablement des messagers de grande douceur. Alors, d'une façon ou d'une autre, d'ailleurs, Jésus l'illustrera avec une parabole quand il parlera de ses enfants qui sont sur une place, hein, et on leur joue de la musique, et puis voilà, hein, dans l'expression de la joie ou dans l'expression du chagrin, personne n'a voulu finalement écouter. Ceux qui entendaient des sons pour les amener à danser, à se réjouir, n'ont pas voulu. Et puis ceux où la parabole eh bien, interprète finalement le chagrin et la mélancolie, personne n'a voulu répondre. C'était une forme de charade à cette époque. Hein. Ce qui montre bien que, d'une façon ou d'une autre, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la suite, c'est que l'homme ne veut pas y prendre garde. Mais là, nous avons devant nous, eh bien, en quelque sorte, une répétition de cette façon dont Dieu veut parler, veut nous parler ce soir. Alors nous avons certainement eh bien, une raison justement de l'écouter, parce qu'il a quelque chose à nous dire. Donc de plusieurs manières, à plusieurs reprises, il a parlé par nos pères les prophètes. Eh oui, voilà. Et si ça a été consigné, les belles histoires, ou les histoires épiques, ou les histoires extraordinaires de ces hommes de l'Ancien Testament, des hommes de foi, des hommes qui ont fait des expériences extraordinaires dans la relation avec Dieu, eh bien, ça nous est conservé pour notre édification, pour que nous puissions comprendre que ce sont des choses qui sont naturellement sérieuses. Alors, par les prophètes, qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? C'est celui qui est inspiré pour parler de Dieu, à la place de Dieu et faire passer un message. Alors, il y a le prophète qui va apporter un message pour l'immédiat, puis il y en a d'autres, comme Daniel, par exemple, qui vont prophétiser sur les temps à venir. Et les prophéties de Daniel, il y en a certaines qui se sont accomplies, mais il y en a d'autres qui vont s'accomplir encore. C'est pas fini. Et c'était des hommes tout simples. C'est pas des hommes qui venaient vers les autres en disant « Je suis prophète », non. Ils venaient et puis il y avait une autorité qui les accompagnait, une inspiration profonde du Saint-Esprit. Alors, il y a une transition dans notre lecture, puisqu'il nous est dit « Autrefois », mais il y a également eh bien, l'inverse qui est proposé dans ces temps derniers. Ça, c'est pour nous. Il y a eu des temps qui se sont écoulés, mais dans ces temps derniers, Dieu ne parle plus ou ne parle pas par les prophètes, ou certains, dans certains cas, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il a parlé par le Fils. Qui est le Fils ? Ben, le Fils, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus, tout simplement. Alors, il a parlé par le Fils. Et si vous voulez vous convaincre que il a beaucoup parlé, parce que les quatre évangiles, c'est Jésus qui parle. Il parle de sa vie, il parle de son œuvre, il parle de la puissance de Dieu, il parle du royaume de Dieu, il parle des capacités infinies de Dieu, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, donc les infirmités, changer l'eau en vin, multiplier les pains, ressusciter les morts. Il nous parle. Et nous avons des récits magnifiques à travers la seule vie de Jésus. Alors, il nous est dit qu'il a parlé donc par Jésus, par le Fils, et ce Fils, il l'a établi comme le chef, le sauveur, l'autorité suprême, le roi, nous pourrions dire, et il l'a établi héritier sur toute chose. Tout ce qui s'est passé avant, et qui nous est rapporté depuis la création dans le livre de la Genèse, jusqu'à maintenant, et qui ira jusqu'aux portes de l'éternité, eh bien, Dieu se révèle maintenant par Jésus. Il se révèle par Jésus. Un jour, il y a des disciples, Philippe, me semble-t-il, et puis également Thomas, sont venus voir Jésus en disant, eh bien, nous aimerions que tu nous montres le Père. Et Jésus a eu cette réponse extraordinaire, et c'est ce qui fait aussi le caractère de la suite. Il dira, mais celui qui m'a vu, a vu le Père. Cherchons, si nous voulons chercher à voir Dieu, eh bien, considérons Jésus. Regardons à Jésus. Vous me direz, il est invisible, mais on le voit, parce qu'il parle à nos cœurs, il parle à nos vies. Il est là, finalement, eh bien, dans notre existence, beaucoup plus proche que nous pourrions nous l'imaginer. Alors il l'a établi héritier, c'est lui qui est Seigneur et Sauveur. C'est lui qui est, je l'ai dit et je le répète, la souveraineté totale et complète sur toute chose, dans le monde et dans l'univers. Par lui, il a aussi créé, finalement, comme cela nous est dit, eh bien le monde, ce que nous sommes, l'humanité, les hommes dans ce qu'ils sont, il les a aussi créés. Donc Jésus est créateur. Voilà. Et si nous pouvons voir finalement, eh bien, cette harmonie qu'il y a entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, nous le voyons parce que le Père est souvent présenté comme celui qui a créé, qui a mis finalement en cours la création. Mais Jésus a fait une œuvre non seulement de création de ce que nous sommes, mais nous apprenons à travers l'Évangile, le Nouveau Testament, qu'il est aussi beaucoup plus que le Créateur. Il est le Rédempteur, celui qui rachète l'humanité qui est perdue. Ça, c'est encore autre chose. La création était bonne. Lorsque nous tournons les premières pages de notre Bible, il nous est dit que Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il nous a dit qu'il vit que tout était très bon. Tout n'était pas parfait, mais tout était très bon. Et ensuite, il y a eu naturellement, eh bien, cette déchéance de l'humanité à travers la faute, à travers tout simplement ce qu'on peut appeler le péché d'origine, qui nous marque encore à travers des siècles et des siècles, et qui fait que notre nature ne peut être acceptée par Dieu parce que nous sommes loin d'être saints, et nous sommes loin finalement eh bien, de lui plaire à travers nos vies. Donc il y a eh bien, là une tout ce qui a pu être écrit, c'est pour nous dire que nous pouvons retourner à Dieu, que nous pouvons revenir à lui, et lui il est capable de nous changer alors que nous en serions nous-mêmes incapables. Alors c'est vrai que les religions se sont évertuées à travers tous les temps à essayer d'améliorer l'homme, hein, à essayer de finalement faire tous ces efforts, mais non, autrement Jésus ne serait pas venu. Si nous pouvions nous sauver nous-mêmes, Jésus ne serait pas venu. Il ne se serait pas laissé crucifier parce que ça aurait été complètement inutile. Et d'ailleurs, dans les dernières paroles de la croix, il nous est dit que c'est lui-même qui dira les derniers mots avant de mourir. Tout est accompli. Et c'est ce qui fait le côté merveilleux, finalement, de la Bible et de l'Évangile, parce que il a tout réuni. Et tout ce qui avait été dit autrefois par les prophètes, de maintes manières, à plusieurs reprises, Jésus l'a accompli. Vous ouvrez les premières pages du Nouveau Testament, eh bien, vous comprendrez que tout a été fait pour que Jésus vienne, et que Jésus vienne vivre au milieu de nous, prendre notre condition, naître pour mourir à notre place. Oui, à notre place. Donc c'est lui qui a créé l'univers, et c'est lui qui, en quelque sorte, sur cette terre, refait la vie, la vraie vie sur cette terre, pour ceux qui veulent bien sûr l'entendre et le comprendre. Et puis c'est là où nous avons finalement eh bien, cette perception de la personne qui est Dieu. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent « mais qui est Dieu ?» Ils ont des idées très 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 vagues, ou bizarres, ou farfelues, ou toutes sortes de choses. Même les Hébreux, qui étaient quand même un peu plus au courant que les autres, bien, quand ils ont voulu faire une démonstration de Dieu, ils en ont fait un veau. Comme si Dieu ressemblait à un veau. Comme si Dieu ressemblait à un animal. Oh, mais là, on glisse vers un petit peu les théories de l'évolution. Hein. Parce que bon, on essaie de nous persuader qu'on a une ressemblance d'en bas, très bas, très bas. Hein, alors que finalement la Bible nous dit qu'on vient d'en haut. Voilà, ça c'est autre chose. Alors il nous est dit que le Fils, c'est-à-dire Jésus, figurez-vous qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et c'est vrai, parce que quand nous ouvrons les pages de l'Évangile, ne serait-ce que de voir les miracles et de voir les paroles, d'entendre les paroles que Jésus nous laisse, des paroles ineffables, des paroles qui surprennent, des paroles qui sont, ce ne pas avec une capacité extraordinaire ou exceptionnelle de diction, mais c'est parce que ce sont des paroles qui touchent le cœur. Jésus a dit des choses très simples, compréhensibles par les enfants et compréhensibles par tous les hommes. Alors moi je dis que nous y voyons la gloire de Dieu dans les paroles d'amour que Jésus nous laisse, les paraboles et les enseignements, à travers finalement ces prédictions prophétiques. Ça, c'est la gloire de Dieu, parce que Dieu sait tout, il connaît tout, il est tout puissant. Et Dieu a la capacité finalement, eh bien, qui dépasse notre intelligence et notre compréhension. Mais si nous regardons à Jésus, la vie de Jésus, qui lui-même ayant été maltraité, étant persécuté, n'a jamais dit une parole qui pouvait être une parole mauvaise. Donc ça, c'est la gloire de Dieu. Les miracles et la puissance, on l'a dit tout à l'heure, ressusciter un mort, changer l'eau en vin, calmer la tempête, chasser les démons, ça, c'est la gloire de Dieu. Reflet de la gloire de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne dans son caractère même. Dans ces attributs que Jésus porte et démontre au monde, nous avons ces deux choses, la gloire, et nous avons également tout simplement ce que Dieu est. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas dire autrement lorsque ses deux disciples dont j'ai parlé tout à l'heure, Philippe et également Thomas, lui ont demandé « Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et si nous voulons venir vers le Père, si nous voulons connaître Dieu, Jésus dira, mais nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, le chemin, il est tout simple. Il est tout simple. Alors, il nous est donné, justement, le caractère même de ce que Jésus est créateur, de ce que Jésus est réparateur à travers la rédemption. C'est une réparation, Nous sommes tous un petit peu comme des bateaux qui ont pris l'eau, qui ont sombré, qui sont pleins d'avaries. Nous prenons l'eau de tous les côtés, c'est-à-dire le péché, le mal, etc., etc. Nous absorbons tout ça et puis nous coulons. Donc Jésus est véritablement le divin réparateur, on pourrait dire qu'il est aussi le divin médecin. Et la raison, c'est que c'est lui qui a fait la purification des péchés, vous avez vu? Il a fait la purification des péchés. Et voilà, c'est ça justement, c'est qu'il n'y a de salut qu'en lui seul. Il n'y a d'espérance que dans la personne de Jésus. C'est lui que Dieu a donné, et il est le médiateur entre les hommes que nous sommes et le Dieu de la création, le Dieu invisible. Et c'est lui, il nous est dit qu'il est le médiateur, c'est lui qui parle, il intercède pour nous. Il prie pour nous pour que les hommes soient sauvés. Et il a fait la purification des péchés. L'Ancien Testament nous a donné tellement de références sur les cérémonies des Juifs, où il fallait égorger des moutons, il fallait égorger des taureaux, pour les plus pauvres, le sacrifice de pigeons, de tourterelles, etc., etc. Ça n'en finissait pas pendant des siècles et des siècles. Et ça, c'était justement un principe d'éducation que Dieu voulait nous donner, que pour être sauvé, il faut que le sang coule. C'est terrible, une chose pareille. Et depuis des siècles et des siècles, le sang coule, on peut le dire. Et en dehors de Dieu même, et peut-être même quelquefois au nom de Dieu. Alors que Jésus, une fois pour toutes, il a donné sa vie à la croix du calvaire, le sang, son sang a coulé pour que le nôtre ne coule plus, en quelque sorte. Et ça, nous avons à travers cela, l'expression finalement de ce que Jésus a été fait, l'agneau, victime expiatoire, pour que nous, si nous croyons en lui, qu'il a pris notre place, nous ne passons plus par la mort. Il n'y a plus de condamnation, nous dit l'apôtre Paul, pour ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est facile, mais c'est peut-être trop simple et trop facile pour certains. Parce que certains disent, bah oui, mais moi je veux bien être sauvé, mais il faut que je, quand même, je fasse mes bonnes œuvres, que je fasse ceci et cela. Ben oui, mais justement, c'est ça ce qui prend les hommes, finalement, en quelque sorte, à leur propre délire et les confondre finalement de leur orgueil. C'est qu'il n'y a rien à faire. Si tu crois, tu seras sauvé. On est venu un jour voir Jésus en lui disant, mais quelle œuvre devons-nous faire pour être sauvés? Jésus dira, si tu crois que Dieu a envoyé son Fils, à ce moment-là, tu es sauvé, tout simplement. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Et si tout le monde avait compris cela, il n'y aurait plus une religion dans le monde. Ah, ça c'est clair, Plus une religion. Les clochers, et puis les temples, et puis tout ce que vous voulez, tout ce que l'on peut imaginer, de bâtiments à caractère religieux, que ce soit dans le christianisme et en dehors du christianisme, il n'y en aurait plus un seul. Il n'y aurait plus qu'une chose. Il n'y aurait plus qu'une foi, une seule foi, la foi en Jésus. Et ça changerait beaucoup. Ça changerait la physionomie du monde, en tous les cas. Sur les places de nos villages bien français, il n'y aurait plus d'église. plus de clocher en tous les cas. Il n'y aurait plus de clocher. Voilà. Alors donc, il a fait la purification des péchés et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Vous savez que quand Jésus est mort, il est ressuscité. Et après avoir été ressuscité, il est monté au ciel. Et vous savez, une grande nouvelle, c'est qu'il revient bientôt. Ça, c'est la Bible qui le dit, c'est notre attente, c'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui nous le dit, là où je vais, vous y serez aussi, je viendrai vous chercher pour que vous y soyez aussi, parce que je reviendrai bientôt, je reviens vite en quelque sorte. Et ça, c'est notre espérance du chrétien, où là, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus toutes ces choses abominables qui existent sur la terre. On aura oublié même le souvenir que nous avons été malheureux, et que notre malheur a disparu le jour où nous avons rencontré Jésus, et c'est lui qui nous a rendu le bonheur, c'est lui qui nous rend heureux aujourd'hui, pour ce temps-ci, et puis également pour l'éternité. Alors, c'est intéressant d'ouvrir la deuxième page maintenant, parce que il nous est dit c'est pourquoi. Alors, cette façon de parler ou d'écrire, c'est pourquoi, ça veut dire, en raison de tout ce que nous venons d'entendre il y a un instant. Parce que j'ai joint les deux textes, je les ai mis l'un après l'autre, qui est en faire une forme de conclusion pour nous amener à la réflexion. Pour nous amener à nous dire que les raisons de Dieu sont des raisons justes et des raisons vraies que nous aurions certainement tort de nous boucher les oreilles et de les rejeter. Pourquoi ? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Je le dis quelquefois et je le répète ce soir, tout le monde est venu avec ses oreilles. À moins que vous ayez mis des... Hein ? Tout le monde est venu et vous avez entendu. Vous voulez que je recommence là ce qu'on vient de dire ? Non, on va continuer, hein. Parce que tout le monde a entendu. Donc, il faut être conséquent avec ce que nous avons entendu. D'autant plus nous attacher. Nous attacher à qui ? Nous attacher à quoi et pourquoi ? Comment ? On pourrait peut-être mettre où aussi ? Eh bien, c'est que Dieu nous a parlé de plusieurs manières et de différentes façons. Il nous a parlé par les prophètes dans l'Ancienne Alliance. Maintenant, dans les temps d'aujourd'hui, pour ce soir, il nous parle par Jésus. Alors, par Jésus, je ne m'appelle pas Jésus, hein. Je suis simplement le traducteur et je suis simplement, eh bien, là, à vous apporter ce message de la part de Jésus. Mais il nous parle. Et il nous parle de Jésus. Il l'a établi héritier. Il lui a donné la gloire souveraine. Et lorsque nous nous tournons vers Jésus, nous avons une image de ce qu'est Dieu, mais une image réelle. Pas une image floue, pas une image, confuse. Mais c'est une image réelle. Ce Dieu qui s'est fait homme. Ce Dieu qui est venu jusqu'à nous, qui a pris nos souffrances, qui a connu aussi les plaisirs et tout ce qui peut comporter la vie humaine, à l'exception du péché et du mal. Alors c'est ce Jésus dont nous est parlé. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu. Il n'y aurait qu'une personne dans le monde, une fois dans sa vie, qui n'entendrait que ces quelques paroles, elle peut être sauvée. C'est pas la peine d'aller chercher et de remuer toute la doctrine biblique d'un bout à l'autre pour dire, eh bien, quand je l'aurai lu et quand j'aurai tout compris, je viens maintenant être sauvé. Ben, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. Parce que là, vous êtes un petit peu comme l'homme qui est sur le bord de la plage et qui regarde à l'horizon et c'est l'océan devant lui. Et l'océan, il est tellement vaste que finalement notre vision se perd dans l'immensité. C'est ça la question. Alors, nous devons nous attacher. Qu'est-ce que ça veut dire nous attacher ? Les prendre au sérieux. Ça veut dire nous les approprier pour nous-mêmes. Ça veut dire les croire. Et ça veut dire, après les avoir crus, les vivre. Écoutez, il y a un texte que je voudrais simplement dire pour mémoire. Et ça, c'est dans les vieilles histoires de la Bible. Il est dit dans le livre de Job, écoutez simplement, si tu veux le bonheur, si tu veux être heureux, si tu veux le pardon de Dieu, si tu veux que Dieu exauce tes prières, parce qu'il y a tout ça dedans. Écoutez, je vais simplement le lire. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Ah, dans un monde de folie et un monde de sang, parce qu'on entend que ça tous les jours. Et alors à ce moment-là, tu auras la paix à l'intérieur de toi-même. Non seulement tu l'auras pour toi-même, mais tu pourras la donner aussi aux autres. Parce qu'un homme de paix, il amène toujours la paix avec lui, pas la guerre. Et tu jouiras du bonheur. Ah, il y a des millions et des millions de gens, excusez-moi, qui cherchent le bonheur dans toutes sortes de choses, d'hypothétiques solutions, d'hypothétiques finalement découvertes. Prétendant que ce sont des découvertes, tu jouiras du bonheur dans des choses matérielles. Certains pensent que le bonheur, il vient avec beaucoup d'argent. D'autres pensent que c'est en faisant des exploits ou c'est en se faisant remarquer ou en devenant populaire, devenir ceci ou cela, ça sera le bonheur. Souvent, ça se termine très mal, hein. Parce que le vrai bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, il n'est pas extérieur. Le bonheur, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et si nous avons fait pénétrer Jésus à l'intérieur de nous-mêmes, c'est sûr que nous allons avoir le bonheur. Parce que Jésus nous dit toujours, même dans les paraboles, « Heureux celui qui ». Et ça revient dans les, pas les paraboles, mais dans les béatitudes, par exemple. Alors à ce moment-là, reçois de sa bouche l'instruction, c'est ce que nous avons dit. Il y a un instant la parole que nous avons ouverte. Reçois l'instruction et mets dans ton cœur ces paroles. C'est pas dans ta tête seulement, parce que si ça descend pas plus bas, eh bien à ce moment-là, de toute façon, ça ne sert à rien. Ça sera tout simplement une connaissance intellectuelle et cérébrale, mais qui ne t'amènera que, finalement, de savoir, mais s'il n'y a pas le vivre. Savoir est une chose, le vivre c'est une autre chose. Tu seras rétabli. Oui, on avait parlé de rédemption, hein. On s'aperçoit que l'humanité a complètement dérapé, hein. Bien que Dieu ait fait toutes choses très bonnes. Mais l'homme a dérapé parce qu'il n'a pas voulu écouter. Alors, tu seras rétabli. Un rétablissement, on l'utilise pour les malades. Il se rétablit parce qu'il était malade, il était à la mort, et il se rétablit maintenant. Donc, il va recouvrer la santé. Et nous, nous avons besoin d'une nouvelle santé physique. Certainement. Jésus a guéri tant de malades dans l'Évangile. Mais une santé morale et une santé spirituelle. Si tu reviens au Tout-Puissant, il y a un retour. Quand il est dit, mais attache-toi. Mais avant de t'attacher, il faut que tu reviennes. Faut que tu rentres à la maison comme le fils prodigue. Et tu verras, tu ne seras pas mis dehors, au contraire, Dieu t'attend. Tu éloignes l'iniquité de ta tente et tu jettes l'or, tes richesses, tes ambitions d'être riche, de toutes ces choses qui ne sont que des vanités, que pour un temps, parce que quand on disparaît de cette terre, on n'emmène pas nos trésors avec nous. Hein. Ça ne nous servirait à rien dans la tombe, hein, quoi qu'il en soit. Jette l'or parmi les cailloux du torrent pour qu'il aille très loin. Alors à ce moment-là, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. On peut être très pauvre et avoir cette richesse intérieure, cette richesse morale et spirituelle qui pourrait faire envie à tous les milliardaires et les millionnaires de ce monde. Milliardaires, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on parle, hein, naturellement. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Vous savez ce que c'est qu'un délice? Quand vous aimez un dessert, par exemple. Ah, vous dites, c'est délicieux! Et vous seriez tout seul à table, vous mangeriez le plat entier, hein. Mais comme il faut se tenir convenablement et montrer qu'on a eu quand même une éducation, on en laisse aux autres. Mais un délice, c'est quand c'est quelque chose de très 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 bon. Alors, si Dieu est pour toi un délice, quelque chose de délectable, tu fais de Dieu ton délice. Alors à ce moment-là, tu pourras faire une chose. Tu pourras élever tes regards, ta face. Tu le prieras. Et figurez-vous que la réponse, elle est tout de suite. Il t'exaucera. Parce que Dieu entend les prières. Et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Vienne l'humiliation, parce que ça arrive à tout le monde, même aux chrétiens, même aux croyants, que quelquefois, eh bien, dans la vie, il y a des ornières, il y a des fossés dans lesquels on tombe. Et quelquefois, on peut se faire mal. Donc, c'est l'humiliation, c'est la tribulation. Alors, tu prieras pour ton relèvement, tu crieras à lui dans ta détresse ou dans ton angoisse. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable, qui devra son salut à la pureté, non pas de ses mains, mais de tes mains, Jésus, qui ont été percées à la croix du calvaire. Et c'est parce que je regarde à la croix du calvaire, je vois les souffrances, je vois que tu as donné ta vie, je vois que ton sang a coulé, et non pas pour toi, puisque tu étais saint, tu es parfaitement saint, mais tu l'as fait pour moi, et parce que je crois que tu l'as fait pour moi, et parce que je le crois, je suis sauvé, et que je suis pardonné de mes péchés. Alors, de nous attacher aux choses que je viens de résumer il y a un instant, que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Vous savez, vous avez remarqué, il y a un petit vent ces jours-ci, hein, 100, 110 km heure, etc. On a intérêt de... Moi, j'enfonce mon chapeau jusqu'ici, hein, parce que c'est vrai que ça vole dans tous les sens, hein. Mais emportés par un souffle, parce que si on ne s'attache pas au Seigneur, on va s'attacher à autre chose. Parce que si nous n'entretenons pas le feu dans la cheminée de notre cœur, que nous n'y remettons pas du bois, que nous n'y remettons pas finalement le combustible nécessaire, nous n'aurons ni chaleur ni lumière. Et ça, c'est pour les choses physiques. Mais si dans mon cœur, je le remplis de toute autre chose que de Jésus, je le remplis de toute autre chose que finalement des choses mauvaises, des choses qui peuvent être toxiques, des poisons, je serai emporté loin de tout cela. Pas possible. Mais par contre, je voudrais vous dire quand même qu'il y a des bonnes choses aussi dans la vie. Hein. C'est vrai. Mais quand nous considérons que Dieu nous a donné des bonnes choses, n'oublions jamais de le remercier pour les bonnes choses qu'il nous a données. Et ça, nous l'oublions. La reconnaissance. C'est important de nous en souvenir. Alors, afin que nous ne soyons pas emportés loin d'elle, c'est pour ça que tout à l'heure nous avons lu « attaché ». Hein? C'est pourquoi nous devons plus nous attacher. Attache-toi à Dieu. Le mot « attaché » est quelque chose d'important. Attaché, c'est comme si je voulais me préserver, je suis sur un bateau qui est en train de danser sur la mer et je suis obligé de m'attacher au mât, par exemple, parce qu'autrement, je vais être emporté dans l'océan. Je m'attache. N'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité en repartant ce soir. Hein. Enfin, ce sont les petits conseils du code de la route que je vous donne au passage. Mais vous serez protégé, c'est une protection. Car si la parole annoncée par des anges, Ancien Testament, les prophètes et tous ces hommes dont nous avons parlé il y a tout à l'heure, si elle a eu son effet, et si toute transgression et désobéissance a reçu sa rétribution, c'était la loi, cela. C'était le commandement de Dieu. C'était quelque chose qui finalement, était là pour donner une notion morale du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur. Et c'est vrai que nous trouvons des choses assez difficiles dans l'Ancien Testament, parce que les Hébreux, quand ils finalement passaient à côté de ce qu'il fallait faire, ça venait pas tout de suite. Hein. Mais quand ça venait, c'était quelque chose de terrible. Hein. Les déportations, par exemple, à Babylone, et puis dans d'autres choses, des situations où ils perdaient devant leurs ennemis, ça c'était les conséquences de leur idolâtrie, de leur tendance à, non pas aller vers Dieu, mais vers l'occultisme, vers la magie, vers les idoles. Et ça leur a coûté toujours très cher. Et Dieu les avait prévenus en disant « ne touchez pas à ça ». Et si on peut le dire encore ce soir, « ne touchez jamais, mes amis, à l'occultisme, à la magie, à la divination, ce sont des choses qui font mourir, tout en ayant l'apparence de les faire vivre ». Je regardais là, il y avait une information qui passait ce midi, il va y avoir un grand salon de la magie à Paris, hein. Je sais pas si vous en avez entendu parler, et on voyait des gens qui étaient questionnés, ils étaient malheureux, enchantés, etc., etc. Moi je dis, mais c'est terrible, parce que c'est comme s'ils allaient au cimetière, hein, quelque part. Hein. Ah ouais, c'est mortel, faut jamais toucher à ça. Et ça se présente souvent avec des allures de bon enfant, de quelque chose d'anodin, etc. Non. La Bible nous met en garde contre ça. De ne pas mettre nos cœurs dans ces choses, de ne pas y aller, de ne pas vouloir savoir ce que sera demain, notre avenir, l'astrologie et tout le reste. Non. Il faut que nous puissions être capables d'obéir à Dieu parce que c'est pas un homme qui le dit, mais c'est le Seigneur qui le dit. Ne touche pas à ça. C'est mortel. Alors, toute transgression et désobéissance a reçu sa juste rétribution. Et il nous a donné le cœur, finalement, pour savoir où est le vrai, où est le faux, les dangers et la justesse, là où nous sommes en sécurité, là nous sommes exposés finalement au péril, il nous a dit, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Ce si grand salut, c'est ce que nous avons dit dans la première partie. Jésus, Sauveur, Créateur, Rédempteur, celui qui est venu pour aimer les hommes et pour nous sauver, nous dire qu'il nous aime. Nous qui étions perdus, finalement, sans amour dans ce monde. Alors, ça c'est le grand salut. Mais comment pouvons-nous échapper? Parce que rien sur la terre et à travers tous les temps n'a jamais été donné d'aussi puissant, aussi grand, aussi merveilleux que le salut qui nous est donné par Dieu en Jésus-Christ. Rien d'autre. Vous savez, les hommes, ils ont essayé des choses, hein, pour essayer de monter au ciel, hein, à travers des mortifications, à travers des jeûnes, à travers toutes sortes de choses pour se faire du mal à eux-mêmes en disant « Seigneur, eh bien, je t'offre ma vie, etc. » Non, ça ne marche pas. Il y en a qu'un qui a donné sa vie pour nous tous, c'est Jésus. Et c'est amplement suffisant, c'est pas la peine d'en rajouter. Comment échapperons-nous? Et comment pouvons-nous échapper après avoir entendu ces paroles ce soir en disant « Seigneur, bon, j'ai écouté, c'était bien, c'était sympathique. Hein. » Il y en a qui repartent furieux, hein, quelquefois, c'est le contraire. Mais toujours est-il, comment pouvons-nous échapper? Puisque nous voyons l'expression de toute la volonté de Dieu de nous sauver, de nous faire du bien et de nous ramener à lui. Comment échapperons-nous? Pas d'autre moyen. Le salut a été d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Ça, c'est les évangiles, les quatre évangiles. Il nous a dit finalement ce qu'il fallait faire avec tous ces principes de moralité. Non, c'est pas seulement des principes de moralité, des principes de justice et des principes de vie. Je préfère peut-être le terme. D'abord annoncé par le Seigneur et qui nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Qui étaient ceux qui avaient entendu Jésus à ce moment-là? C'était les douze apôtres. Et ensuite, ces hommes, dont ils n'étaient pas tous finalement au départ, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit en tous les cas, Hein, que ce soit Matthieu, que ce soit également prétendument Marc pour l'apôtre Pierre, hein, Luc également qui est venu plus tard, et puis Jean, l'apôtre Jean. Donc c'est les paroles de Jésus nous ont été consignées à travers finalement tout cela, pour que eh bien nous puissions lire la Bible, parce que c'est en lisant la Bible que l'on croit. Hein. C'est en recevant les paroles de la Bible et du message de l'Évangile que l'on peut être sauvé. Alors il nous est dit que c'était peut-être pas suffisant pour nous qui sommes souvent incrédules, mais non seulement les choses ont été dites, Jésus a fait des choses, des miracles qui nous sont rapportés, mais écoutez, il nous est dit, mais Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit. Et encore aujourd'hui, 2000 ans après, le Seigneur est encore capable de faire des signes, il est encore capable de guérir les malades, il est capable encore de délivrer, de sauver, d'affranchir des âmes, de désempoisonner nos âmes. Et de nous sauver, de nous donner une véritable conviction pour nous retrouver, eh bien là, dans ce salut de Dieu que Dieu nous a proposé. Oui, Dieu appuyant leur témoignage. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, c'est un livre extraordinaire qui fait suite aux quatre évangiles qui nous sont donnés. Mais là, nous voyons qu'à chaque page, à chaque mot, à chaque chapitre, il y a des choses extraordinaires qui nous sont données. Et on voudrait peut-être vivre aujourd'hui encore ces choses. Oui, il y a 2000 ans. Mais le Seigneur a dit, en disant à ses disciples, maintenant je vous envoie, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, allez par tout le monde, dites que le salut est arrivé, que les hommes ont à se repentir de leurs péchés, à se convertir finalement, et à naître de nouveau. Et nous nous apercevons que Jésus donnera la mission à ses disciples dans l'évangile de Jean, eh bien je vous envoie, et vous ferez encore beaucoup plus de miracles que moi j'ai fait. Vous vous rendez compte quand déjà Jésus, nous voyons tous les miracles qu'il a fait. Oui, mais Jésus voulait dire dans le temps et dans l'espace. Et encore aujourd'hui, lorsque nous prêchons Jésus, lorsque nous prêchons la foi en Jésus-Christ, lorsque nous prêchons la paix en Jésus, le salut en Jésus-Christ, depuis 2000 ans, ça marche encore. Et lorsque nous prions pour les malades sont guéris. Lorsque nous prions pour que les gens soient baptisés du Saint-Esprit, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Parce que ça, c'est être rempli de Dieu, hein. Être rempli de Dieu. Alors, nous croyons qu'à travers ces quelques mots que nous avons partagés ce soir, eh bien, le Seigneur nous appelle, nous interpelle les uns et les autres. Comment pourrions-nous être sauvés en négligeant un si grand salut? Et on va prier, et on va dire au Seigneur, je crois très fort à ta parole. Je crois très fort à ce que tu as accompli pour moi, en lieu et place, pour moi. Et je crois que, eh bien, tu entends ma prière, et tu vas me donner de rester attaché, de rester le plus près possible, dans cette relation et cette communion d'intimité avec toi, afin de ne pas passer à côté, de ne pas passer outre. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce ce soir, et qu'il fortifie notre foi, notre espérance, et peut-être pour certains de découvrir la foi. Eh bien, nous allons le lui demander, si vous voulez bien. Seigneur, nous te rendons grâce, et nous te remercions, Seigneur, parce que comment pourrions-nous échapper à un si grand salut, si nous négligions un seul instant, eh bien, tout ce qui nous a été dit. Parce que tu as parlé autrefois, par les prophètes, par des hommes. Tu as parlé, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voulons te rendre grâce parce qu'aujourd'hui, la révélation est encore beaucoup plus belle qu'hier. Elle est encore beaucoup plus majestueuse. Elle est beaucoup plus réelle, beaucoup plus forte, Seigneur, parce que tu nous as parlé par le Fils. Tu nous as parlé par Jésus-Christ dans l'Évangile. Tu nous as parlé, Seigneur, par les apôtres qui ont reçu cette parole et qui l'ont consigné, Seigneur, dans l'Écriture sainte. Et nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu veux encore donner la preuve que Jésus est vivant. Que Jésus est vivant parce qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Et que lorsque nous prions, eh bien, Seigneur, tu te révèles par des signes, des miracles et des prodiges, par les œuvres du Saint-Esprit. Alors touche nos cœurs, touche nos vies, Seigneur. Nous te le demandons ce soir. Et puis, Seigneur, ce que nous voulons te demander, chacun d'entre nous, dans l'intimité de notre prière personnelle. Seigneur, donne-moi, Seigneur, de rester le plus près possible de toi, attaché à ta personne, parce que tu es vraiment le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.